d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Avant-dernière émission de la saison 2016-2017. Le thème « Nouvelles humanités ». Un thème cher à Edgar Morin, l'un des penseurs français contemporains les plus remarquables, et pour certains, le plus remarquable. Né le 8 juillet 1921, bientôt c'est son anniversaire, il continue son travail. Il vient de publier « Connaissance, ignorance, mystère » aux éditions Fayard. Nous sommes allés à Paris pour un entretien avec lui. Il nous accueille dans son bureau au CNRS. Pour cette émission, Edgar a choisi trois musiques. Premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, ouverture de Lohengrin, Daphnis et Chloé de Ravel. Avant d'écouter une partie de l'entretien, Anna nous lit un extrait de son dernier livre, Connaissance, ignorance, mystère, extrait du début et de la fin de ce livre. Puis nous écouterons directement Edgar et arrivera la première partie de l'émission. Ne quittez pas l'antenne car aussitôt après les informations, nous reprendrons directement Edgar.
J'ai gardé les curiosités de l'enfance, les interrogations de l'adolescence. J'ai pu, à 27 ans, dans mon livre « L'homme et la mort », interroger ce qui, dans la condition humaine, pose le plus de problèmes et nécessite une culture transdisciplinaire. À 30 ans, j'ai eu la chance d'être intégré au CNRS, qui m'a permis de satisfaire mes curiosités et interrogations, loué soit-il pour la liberté qu'il m'a accordée. Je ressens toujours très vivement le plaisir des découvertes et des élucidations. Et je n'ai cessé de lire revues scientifiques et ouvrages m'informant des prodigieux progrès des connaissances. Néanmoins, très rapidement, j'ai compris que la relation entre la connaissance et la réalité posait le problème soulevé depuis longtemps par des penseurs indiens, chinois, grecs, soulevé de nouveau par Kant, et aujourd'hui par la science du cerveau et la philosophie de la connaissance. Que connaît-on? Que peut-on connaître de la réalité? Tout ce qui est évident devient étonnement et mystère. Mon étonnement s'accroît à chaque regard, à chaque sensation. Ce n'est pas seulement le mystère de la vie, de l'existence, de la réalité, c'est aussi la tête des passants dans la rue. Les arbres, les animaux. Je m'ébahis devant les pépins amassés, protégés comme des bébés à l'intérieur de la chair du melon, des pépins du grain de raisin, ou devant l'amande calfeutrée à l'intérieur d'une oiseau cuirassée de la pêche. J'ai le fort sentiment de l'invisible caché dans le vu. Je ressens ce qui a été ressenti par tant d'esprits dans tant de civilisations, le sentiment d'une vérité secrète qu'il faut chercher avec obstination et assaise, jusqu'à l'initiation qui fait accéder enfin à la vérité ésotérique. Mais je suis arrivée à la conscience que cette vérité restera à jamais cachée à notre conscience. Ceux qui croient y être parvenus s'illusionnent d'un maître mot qui les illumine. Du reste, je suis toujours éberluée quand j'entends ceux qui brandissent le mot qui dissipe toutes ténèbres, Dieu, matière, esprit, raison, déterminisme. Je suis de ceux qui s'émerveillent de l'univers, mais non de ceux qui lui trouvent un sens ou le rationalisent. Quand le grand Einstein s'enchante de la raison supérieure qui régit l'univers, je ne peux m'empêcher de penser que cette raison supérieure est toute mêlée d'une folie immodérée, avec les annihilations d'antimatière par la matière, les collisions et explosions d'étoiles, les désintégrations ininterrompues de tout ce qui est intégré, sans oublier les cataclysmes qu'a connus l'histoire de la vie et, si l'on passe à l'humain, les extinctions de civilisations, les anéantissements culturels, les déferlements de massacres et délires, cruautés de toutes sortes. La raison du scientifique s'est projetée sur le monde et l'y a incorporée. De même, ceux qui croient en un esprit de l'univers projettent leur esprit sur l'univers et l'y incorporent. Ceux qui projettent leur raison sur l'univers tendent à considérer l'irrationalité comme illusion d'ignorant et devenant ainsi eux-mêmes irrationnels dans l'illusion rationaliste, tendent à devenir aveugles aux irrationalités du monde. Plus on voit ce qu'il y a de rationnel, plus il faut voir aussi ce qui échappe à la raison. Dostoïevski disait « L'homme est un mystère. Si pour l'élucider on y passe notre vie entière, nous n'avons pas perdu notre temps. » Il a ajouté « Je m'occupe de ce mystère, car je veux être un homme. J'ai passé ma vie entière à m'occuper et me préoccuper du mystère humain. Il fait partie d'un mystère plus ample. Le mystère nous fait comprendre que vivre est une navigation dans un océan d'incertitude avec quelques îlots de certitude pour s'orienter et se ravitailler. Il nous encourage à décider et à agir dans l'incertain en sachant prendre le parti d'Eros dans le corps à corps de sa lutte contre Thanatos. Il aiguillonne notre participation à l'aventure de l'humanité. C'est une aventure folle qui mêle le sublime et l'horrible. Elle est partie intégrante, marginale ou en avant-garde de l'aventure de l'univers. Nous continuons notre aventure au sein de l'aventure cosmique, sans savoir où elle va.
De nous accueillir dans votre bureau au CNRS. À propos des nouvelles humanités, alors il y a un cri, une constance qui apparaît dans toute votre œuvre, c'est qu'on n'enseigne pas l'humain. Et vous le reprenez, en l'occurrence, dans votre livre « L'aventure de la méthode », puisqu'à un moment donné, vous rappelez que, selon vous, aucune école, aucune université n'enseigne l'humain dans sa globalité. Et puis, vous insistez sur le fait qu'il faut un humanisme régénéré, renouvelé. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle humanité, comme vous dites, mais il faut travailler là-dessus. Et vous esquissez une nouvelle humanité. Alors, est-ce que je pourrais, nous pourrions savoir quelle en est l'origine, quelles en sont les finalités, l'esquisse, l'origine et les caractéristiques de ces nouvelles humanités? C'est tout.
Alors, moi, je pense qu'il faut remonter à l'histoire dans notre culture européenne. Ce qui s'est passé, c'est que, après notamment une époque où la Renaissance voyait la floraison d'esprit encyclopédique, c'est-à-dire capable de traiter aussi bien de du monde matériel que de la vie, que de l'humanité, que de la morale, que etc. On a vu de plus en plus, notamment à partir du développement de la science moderne, une séparation entre ce qu'on peut appeler la culture scientifique et la culture des humanités. C'est-à-dire que du même coup, la culture des humanités s'est coupée de tout ce qui concerne la connaissance du monde extérieur, de la nature, de l'univers, qui a été réservée à la science. Alors, cette dissociation, cette disjonction, nous la voyons, elle n'est pas encore tout à fait présente au XVIIe siècle. Nous voyons par exemple un Pascal être à la fois un penseur et un scientifique et un littéraire. Bon. Nous voyons même Descartes, qui n'est pas seulement l'auteur de la méthode, mais l'auteur sur les passions humaines. Mais nous voyons même encore au XVIIIe siècle une tentative de l'encyclopédie pour au moins juxtaposer dans un ensemble tous les savoirs possibles, donc rassembler les connaissances et notamment celles des humanités. Mais la dissociation s'aggrave de plus en plus. Encore au XIXe siècle, les philosophes comme Hegel, quand ils parlent de science, pour eux, c'est la philosophie. Ce n'est pas... Vous avez encore Goethe, qui est à la fois un botaniste qui s'intéresse aux couleurs, etc., à des problèmes physiques et à des problèmes métaphysiques. Mais enfin, nous sommes arrivés aujourd'hui non seulement à une disjonction, mais à une différence de nature entre les deux cultures. Pourquoi ? Parce que la culture scientifique est de plus en plus fondée sur la spécialisation. Elle est fondée aussi sur le refus du sujet, de la subjectivité humaine. C'est-à-dire, la méthode scientifique est censée arriver à l'objectivité par ses procédures expérimentales ou d'observation. Et donc, le rôle que l'esprit humain a dans toute connaissance, y compris dans toute procédure, est ignoré. Donc on a une connaissance purement objectiviste, on a une connaissance hyper spécialisée, et on peut dire, et de l'autre côté, les humanités sont comme des moulins qui ne reçoivent plus le grain des connaissances scientifiques, lequel est de plus en plus considérable, pas seulement en quantité, mais en importance. Ainsi, par exemple, ce qu'on a appris au XXe siècle et encore aujourd'hui de plus en plus sur l'univers est quelque chose qui renverse tout à fait les conceptions copernicienne, newtonienne que l'on pouvait avoir. Ce qu'on a appris sur la vie, sur le fait que le message héréditaire est inscrit dans des molécules d'ADN, et sur le fait que la vie, ce phénomène qui a des qualités nouvelles par rapport au monde physico-chimique, est pourtant constitué uniquement de matière physico-chimique, enfin, et même, je dirais, tout ce qu'il y a de révolutionnant dans les sciences humaines, surtout à partir de la préhistoire, de la connaissance de la forme, de l'hominisation, et aussi des sociétés qu'on appelle archaïques ou des sociétés aujourd'hui extérieures. Bref, il y a tout un acquis énorme qui est enfermé dans des compartiments de spécialistes et qui n'arrive à la connaissance du public des humanités. Heureusement que grâce à un certain nombre de collections, comme chez Odile Jacob, ça a commencé, dit le reste, avec Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, les livres de Jacob, François Jacob. Et quoi. Bon. Mais à part ces tentatives d'établir des passerelles, des liens, il y a ce divorce fondamental. Et il est très grave, parce que la culture est amputée. Et le grand problème, c'est de rétablir les connexions qui, à mon avis, c'est facile. Il ne s'agit pas d'entrer dans les détails technico-scientifiques de telle ou telle discipline. Il s'agit de reconnaître les résultats, les acquis les plus fondamentaux. Et à partir de ce moment-là, il est possible d'essayer de penser notre condition, notre identité humaine. Et c'est là où je trouve que, en effet, non seulement cette situation a rendu impossible tout enseignement sur l'humain dans nos écoles, collèges et universités, et on en est resté à quelques idées plates sur l'homo sapiens ou l'homo faber. Alors que, moi je pense que, quand on reconnaît l'humain comme une trinité conceptuelle, c'est-à-dire que l'humain, c'est à la fois un individu, c'est à la fois espèce, c'est à la fois société, que ces trois réalités sont non seulement indissociables, mais s'entregénèrent l'une l'autre. C'est-à-dire que c'est les interactions entre individus qui produisent la société, laquelle, avec sa culture et son langage, produit les individus, et nous-mêmes, individus, nous produisons l'espèce par nos accouplements, et nous sommes des produits producteurs. Bon. Ce qui oblige aussi à penser d'une façon plus complexe. Donc, concevoir cette trinité. Si vous concevez cette trinité, alors vous pouvez concevoir à la fois l'originalité de l'humain par rapport au monde biologique et à la fois son appartenance à la vie, non seulement parce qu'il est mammifère, vertébré, animal, mais parce qu'il a en lui les cellules qui sont nées, les héritières de celles qui sont nées au début de la vie sur la planète, mais en plus que cette vie porte en elle la formation des atomes de carbone, lesquels portent en eux la formation des particules. Enfin bref, on a en nous toute l'histoire de l'univers d'une façon singulière, hologrammatique, comme une, c'est comme une cellule de mon, de ma peau qui contient tout le programme cinétique, mais une partie seulement est exprimée. Et nous devons nous rendre compte que nous portons tout l'univers tout en étant autre, tout en ayant une spécificité. Et c'est alors là aussi qu'il y a une chose qui est très importante, c'est repenser les catégories de l'individu humain, parce que on reste limité à l'idée de Homo sapiens, c'est-à-dire un être doué de raison, ce qui est vrai. Mais on oublie que c'est une réalité bipolaire, qu'on a le pôle de la rationalité, le pôle du délire et de la folie, et que cette folie n'est pas seulement un cas extrême que l'on traite dans les asiles. Nous l'avons en nous, elle apparaît, elle jaillit dans la moindre de nos colères, elle est présente dans nos mégalomanies, dans ce que, elle est présente dans notre civilisation qui est animée par ce que les Grecs ont appelé justement la démesure, l'hubris, qui cherche toujours plus, toujours la croissance, toujours la conquête. Toujours. Donc, si vous voulez, l'humain vit cette relation bipolaire, et entre les deux, il y a évidemment l'affectivité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est grâce à la neuroscience, on sait que les pôles rationnels, plutôt les centres rationnels de l'esprit, quand ils sont activés, activent immédiatement des centres émotionnels, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de raison froide et glacée. Sauf dans les calculs des éconocrates et des technocrates, où à ce moment-là, ils ont peut-être la passion pour leurs calculs, mais leurs calculs sont dénués de tout sentiment humain. Donc, si vous voulez, cette réalité de l'homo sapiens des masses est capitale à comprendre, parce qu'on sort de l'alternative un peu naïve, est-ce que l'homme est bon, est-ce que l'homme est mauvais. Alors, on se rend compte que tout ceci est vrai et dépend des moments, etc.
Regarde Edgar Morin pendant cette émission. Il est très à l'écoute. Il est fatigué. Mais son regard est bienveillant, attentif. Sa simplicité est intense. Je lui dis que, outre les questions de départ, vous noterez que je ne l'interromps jamais. Je garderai le silence. Il sourit avec complicité. Trop souvent, me dit-il, dans les entretiens, on ne me laisse pas m'exprimer. Cela est trop fréquent. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je le laisse s'exprimer. Edgar Morin nous parle des nouvelles humanités. Écoutons-le.
Homo faber aussi est très insuffisant, puisque nous savons que dès la préhistoire, dès même Néandertal, avant même l'espèce humaine, il y a une croyance en une survie des morts. Il n'existe pas de société sans religion, il n'existe pas de société sans mythe, et que les sociétés les plus techniques, les plus économiques, les plus matérialistes sont en même temps très spiritualistes, comme en Amérique, où la religion joue un rôle énorme, ou bien la Russie, qui a voulu supprimer toute religion pendant 70 ans, l'a en fait renforcée. Nous sommes... Et la religion n'est pas seulement la religion des croyances en Dieu, etc. Le nazisme était une religion raciste. Le communisme était une religion de salut terrestre. Nous sommes imbibés de mythes. Le néolibéralisme est un mythe et non pas une science. Je veux dire que cette réalité mythologique de l'être humain est absolument capitale. C'est Fernando Pessoa qui disait que par la création de mythes, nous communiquons avec le mystère, c'est-à-dire avec les choses essentielles que nous... Bon. Donc, si vous voulez, homo, nous avons enrichi... Alors, j'ajoute que la notion d'homo economicus qui domine aujourd'hui, qui domine toute notre conception de la politique, de tout ça, est une conception qui d'abord est très abstraite parce qu'elle suppose que l'homme est mu par son intérêt rationnel, alors que nous savons aussi que ce que l'on croit être son intérêt n'est pas nécessairement rationnel. Mais aussi, Il y a l'autre pôle qui est la dépense, le don, le jeu. Et on est heureusement, on est capable de générosité et de dons, et pas seulement de. Et du reste, cela dès les sociétés les plus anciennes. Et même aujourd'hui, où prévoit l'homo economicus, nous faisons des cadeaux, nous jouons au jeu, etc. Donc, si vous avez cette conception déjà complexifiée de l'humain, et en plus, si vous ajoutez que à la polarisation entre la prose et la poésie de la vie, la prose étant les choses obligatoires que nous avons besoin pour survivre, et que vivre vraiment, c'est vivre poétiquement, c'est-à-dire dans la communion, dans l'effusion, etc. Alors, à ce moment-là, nous pouvons non seulement mieux nous connaître nous-mêmes, mais nous pouvons avoir des indicatifs pour une éthique, pour une politique. Donc, si vous voulez, les nouvelles humanités sont indispensables, d'abord au général, pour relier les savoirs, parce qu'il faut dire que dans les humanités classiques, vous avez des sources merveilleuses de connaissances, c'est pas seulement les sciences, parce que le roman, lui, nous introduit dans les subjectivités humaines, ce que les sciences sont incapables de faire. La poésie nous introduit dans un domaine que les sciences sont incapables de traiter. Donc, si vous voulez, et la musique nous parle d'un langage que l'on ne peut pas traduire en mots, mais qui nous touche en profondeur en tant qu'être humain. Donc, si vous voulez, les arts, les lettres, toutes ces choses-là, ce sont pas seulement des moyens qui nous touchent en tant que être humain, qui nous donne une émotion de poétique, mais qui nous donne aussi une mieux façon de nous comprendre et de nous connaître. La mort, comme disait Eliot, l'humanité ne peut pas too much reality, ne peut pas supporter trop de réalité, notamment la mort. Mais cette mort, nous pouvons mieux la voir à travers la tragédie grecque, la tragédie shakespearienne. J'ajoute même que à travers des lectures comme celle de Dostoïevski ou même des films, nous sommes meilleurs parce que nous voyons les êtres dans leur complexité. On ne peut pas les réduire à des catégories. Raskolnikov n'est pas simplement un jeune criminel dégoûtant. C'est quelque chose de plus, et puis dont la réalité humaine va être révélée grâce à une petite prostituée. Donc, si vous voulez, si on n'a pas la ressource de la littérature et des arts, on a une vision absolument mutilée. Et bien entendu, si on n'a pas les connaissances que nous apportent les sciences, on a une vision mutilée. Et il ne s'agit pas d'avoir de savoir quantitativement tout ce qui vient, parce que même dans une discipline, on ne peut pas contrôler la production des travaux scientifiques. Mais on doit aller sur l'essentiel, sur les problèmes clés, sur les problèmes qui sont l'ordre, le désordre, l'organisation, les forces qui sont dans le monde, qui opèrent les liaisons, les rencontres, les rosses, et les forces qui dans le monde opèrent la dissociation, la dispersion, Thanatos. On peut très bien comprendre, sans être un physicien, ce que nous dit la thermodynamique. On peut très bien comprendre ce que nous dit la microphysique, tout en étant incapable de comprendre les calculs qui déterminent les particules. Donc, voilà, à mon avis, c'est une chose centrale qui manque. Et la connaissance de l'homme est une chose centrale qui manque. Et les nouvelles humanités, à mon avis, sont absolument indispensables. Maintenant, qui osera le faire ? J'espère que nous avons un nouveau ministre, mais je pense qu'il doit être conscient de ses problèmes. Je sais qu'il doit tenir une stratégie, parce qu'il a affaire à ce que Allègre appelait un mammouth, et puis qu'il a affaire à un corps enseignant profondément démoralisé, profondément humilié, et qu'il doit tenir compte de tous ces facteurs. Et d'autre part, j'ajoute qu'on ne peut pas réformer par décret l'éducation nationale. Je pense qu'il faut faire des expériences pilotes, et je pense qu'il est capable de le faire.
Voilà. De ce côté-là, j'entends. Autrement dit, pour vous, les nouvelles humanités vont surgir là où, à la limite, on ne s'y attend pas, à travers des expériences, des possibilités, des libertés qu'on donnera aux gens, c'est ça ?
Bien sûr, et c'est-à-dire pas seulement des libertés, mais je crois que si on décide de faire un lycée dans lesquels on introduit ces nouvelles humanités, et notamment des thèmes de mon livre « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation », on peut du même coup former des formateurs d'un type nouveau, c'est-à-dire moi je pense que, si vous voulez, le problème n'est pas de supprimer ce qui est enseigné, qui est très bien, au contraire, je dirais même qu'il faut maintenir et développer l'histoire, c'est très important, la géographie, mais ce qui manque, c'est l'humain. Ce qui manque, c'est la compréhension d'autrui qui devrait être enseignée. Ce qui manque, c'est la connaissance de la connaissance, c'est-à-dire les pièges qui se trouvent dans la connaissance, qui nous conduisent aux erreurs et aux illusions qui peuvent être mortelles pour nous. Ce qui manque, c'est d'affronter les incertitudes, alors qu'on est en train, qu'on nous convainc qu'on peut avoir que de vivre que de certitudes. C'est pas vrai, nous ne pouvons vivre que dans un commerce avec entre certitudes et incertitudes. Donc moi je crois qu'il faut faire une université pilote, faire une école secondaire pilote. C'est une chose avec une formation enrichie, pas supprimée, enrichie. C'est des choses qui vont ouvrir des chemins vers l'avenir. Voilà.
Autrement dit, les nouvelles humanités, ça fait partie de la nouvelle voie ou de la voie nouvelle que vous souhaitez?
Absolument, absolument. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer.
Alors Edgar, on va terminer cet entretien. J'ai lu attentivement les 11 recommandations qu'à un moment donné, vous dites ce qui me permet de vivre. C'est à la page 87, il y en a 11.
Ah ben, j'ai oublié.
Et j'en rajouterai une 12e devant vous. C'est s'étonner.
Oui.
Vous êtes quelqu'un qui ne cesse de s'étonner. Plus vous avancez, plus vous étonnez. Et je crois que bientôt, ça va être votre anniversaire. Alors vous, qui avez tous les âges de la vie, je vous souhaite un très bon anniversaire qui n'est que le premier d'une longue chaîne qui n'est pas finie encore.
Espérons. Écoutez, je pense que la philosophie qui est née de l'étonnement aboutit à l'étonnement. Parce que on aboutit à tout ce que nous avons appris sur l'univers, sur la vie, sur la créativité vivante, sur le fait que les papillons volent, que les chauves-souris volent, que des reptiles se sont mis à voler et sont devenus des oiseaux. Enfin, sur tout ce que nous voyons, sur nous-mêmes, pourquoi nous sommes là, pourquoi sommes-nous. Tout ça est un sujet d'étonnement permanent. Et je pense que dans cet étonnement, il y a une part d'émerveillement. Mais j'ajoute que pour moi, c'est capital que cet étonnement qui est lié à l'émerveillement, lequel renvoie à l'étonnement, qui se renvoie l'un l'autre. Mais je pense aussi que cette capacité d'aimer la vie, de s'émerveiller devant elle, nous donne le courage de nous rebeller contre ces cruautés et contre les horreurs qui viennent de notre espèce humaine elle-même. Et dans le fond, je crois que plus on est capable d'aimer la vie et de s'émerveiller, plus on est capable de lutter et de résister contre ce qu'il y a d'infâme dans le monde et dans la vie.
Mais tout vient, cette espèce de source absolument incroyable chez vous, d'énergie créatrice, d'enfance, qui fait que vous ne cessez de vous émerveiller, de questionner, de découvrir, d'entrer en connaissance, de recommencer. Mais d'où ça vient?
Mais ça, c'est ce que je ignore, je ne sais pas. Vous savez, c'est un peu... Quand je parle, que j'expose mes idées, que je fais une conférence, je me sens comme possédé par ces idées. Je me sens, disons, comme cette sorte d'inspiration que les chamans ont eu, je pense, ou que les écrivains ont, que ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de moi-même, et qui fait partie de cet inconnu dont je parle dans mon livre.
C'est très beau, votre titre est très beau, puisqu'on pourrait dire « J'en finis pas de connaître ». Et plus je connais, plus je suis ignorant,
oui.
Et j'admire le mystère qui me permet de continuer.
Oui, oui, parce que la découverte d'une nouvelle ignorance ne dévalue pas la connaissance qui y a conduit. Au contraire, elle la justifie. On veut toujours mieux connaître pour mieux ignorer. Et bien entendu, dans l'ignorance, il y a cette part d'inconcevable que l'esprit humain ne peut pas concevoir avec ses limites, mais qui est le mystère.
Merci beaucoup, Edgar. Oui. Oui, merci Edgar de cet entretien dont vous venez d'entendre un extrait. Edgar Morin, penseur transdisciplinaire, parfois indiscipliné, merveilleusement indiscipliné, docteur honoris causa de 24 universités dans le monde, et ayant publié à ce jour plus de 80 livres, dont le dernier, encore une fois, je vous le rappelle, très lisible, vraiment très lisible, Connaissance, Ignorance, Mystère. Edgar m'a confié qu'il serait sans aucun doute présent au Festival du Livre de Montsartou en début octobre. Il doit arranger, me dit-il, un problème de voyage au Brésil, car il ne cesse de circuler dans le monde, à cause ou en raison de son âge, je ne sais, et il sera présent donc parmi nous au Festival du Livre de Montsartou, et vous pourrez le rencontrer, l'approcher, et nous sommes quelques-uns à travailler sur son projet de nouvelle humanité, nous sommes 12 exactement, à travailler sur une formation universitaire sur les nouvelles humanités qui devrait voir le jour en 2019, et ces nouvelles humanités prendront racine dans ce que dit Edgar, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la constitution de nouvelles humanités sur la base de l'anthropologie complexe qui conçoit l'homme à la fois comme être individuel, social, biologique et physique. Et il rappelle ô combien aucune école, aucun lycée, aucune université n'enseigne dans sa complexité et dans sa globalité ce qu'est l'être humain. Mais nous pourrions ajouter, combien y a-t-il de familles qui enseignent dans sa complexité et dans sa globalité l'être humain ? Je laisse ouvert la question. J'ajouterai avec Edgar qu'il est effectivement important de concevoir des opérations pilotes, d'innover dans toutes les structures qui existent, dans des universités interagent, qui parfois se contentent de conférences, où on s'endort et on se réveille au dernier moment. Pas toujours, mais parfois, je l'ai vécu. Ou dans d'autres structures. Bref, toutes les associations, tous les lieux sont ouverts à l'innovation pour ces nouvelles humanités qui réuniraient, vous l'avez bien compris, les 7 savoirs que Edgar a présentés dans un livre pour l'UNESCO et qui s'est vendu bien plus à l'étranger qu'en France. Je rappelle ces 7 savoirs oubliés, les cécités de la connaissance, c'est-à-dire travailler sur l'erreur et l'illusion, les principes d'une connaissance pertinente, le fait d'enseigner la condition humaine, le fait de découvrir l'identité terrienne, d'affronter les incertitudes, d'enseigner la compréhension et inévitablement une éthique du genre humain. Voilà, Edgar, qui a encore beaucoup de choses à nous raconter, mais son dernier livre amplifie ce qui a commencé avec la méthode, avec des travaux sur le terrain, qui ont été plus ou moins appréciés, puis après reconnus dans le monde entier. Ce thème de la complexité qui traverse son œuvre, ce thème, encore une fois, de l'éducation, que l'on retrouve dans plusieurs livres, dont les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, paru au Seuil, et le dernier, Connaissance, Ignorance, Mystère, plus d'autres, dont l'un qui est paru à Actes Sud, Manifeste pour l'éducation. Encore une fois, je me permets d'extraire quelques phrases absolument importantes de son dernier livre. Écoutez bien. J'ai gardé les curiosités de l'enfance, les interrogations de l'adolescence. J'ai pu, à 27 ans, dans mon livre « L'homme et la mort », interroger ce qui, dans la condition humaine, pose le plus problème et nécessite une culture transdisciplinaire. Il faut à 27 ans. Et il continue. J'ai le fort sentiment de l'invisible caché dans le vécu, dans le vu. Et il termine son livre par cette phrase qui nous concerne tous. Notre aventure, notre vie, se situe au sein de l'aventure cosmique, sans savoir où nous allons. Mais le chemin produit quelque chose de beau. C'est peut-être là où se trouve majoritairement le sens de la vie. Alors voilà, je vous encourage beaucoup à redécouvrir Edgar et surtout peut-être dans ce dernier livre, Connaissance, Ignorance, Mystère, dans tout ce qu'il a écrit sur les nouvelles humanités, dont vous trouverez des passages surtout dans l'aventure de la méthode aux éditions du Seuil. Et puis, je me permets, puisque nous avons un petit moment encore devant nous, j'ai pas voulu vous faire entendre la totalité de l'émission, parce que parfois c'était plus difficile peut-être à suivre, je vous redonne ces 11 principes du bien-être auxquels j'avais rajouté, vous l'avez vu, un 12e principe, celui de s'étonner. Ces 11 principes, les voici. Vivre poétiquement autant que possible. Vivre dans la curiosité et l'amour. Garder raison dans la passion, garder passion dans la raison. Garder le sentiment mystique du mystère. Ne pas cesser de quérir et de chérir le sublime et l'extase, amour, communion, poésie, musique, merveille et mystère de la terre et du ciel. Essayez toujours de comprendre et surtout de comprendre autrui. Aspirez à la sérénité et l'intensité simultanée. Acceptez la leçon de Sisyphe, toujours recommencer jusqu'à la mort. Ressentir en soi de façon existentielle, esthétique, éthique, l'appartenance au cosmos, l'appartenance à la vie, qui nous désingularise, font de nous des êtres péninsulaires, participant à la gigantesque et fabuleuse aventure cosmique, comme à l'aventure de la vie. Être ému, souffrant, joyeux d'être vivant parmi les vivants. S'émerveiller des splendeurs de la vie et y trouver l'énergie de se révolter aussi contre les horreurs. Et le 12e, c'est de continuer à s'étonner et être émerveillé. Voilà la leçon d'Edgar qui, après avoir travaillé sur des sujets très sociologiques, très pointus, comme la méthode, avance dans la vie en élargissant le genre, son champ de réflexion, et en nous offrant, en particulier avec son dernier livre, un livre de synthèse, de réflexion, de sagesse. Finalement, il nous dévoile ce qui a toujours été présent en lui et n'avait encore jamais été écrit dans un livre. Alors je vous invite à écouter ce livre. Je vous donne rendez-vous demain soir pour notre dernière émission. Nous explorerons quelques émissions de l'année passée. Je vous présenterai le projet des émissions pour 2017-2018 et je me permettrai de vous confier 5 ouvrages que j'ai trouvé passionnant et que je vous invite à découvrir pendant les vacances. Alors nous allons y quitter avec une musique choisie par Edgar pour terminer cette émission. Et je vous dis à demain soir, 18h, pour la dernière émission. Bonsoir, chers auditeurs.